Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier absolument crucial pour quiconque évolue dans le monde professionnel.
Un sujet qui touche vraiment à la dynamique même de toutes nos organisations.
Exactement. Nous allons parler de la gestion des conflits en entreprise, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser dès les premières phrases que cette présentation est tirée de l'espace de ressources lesclésdumanagement.com.
C'est une base de travail extrêmement riche pour notre analyse d'aujourd'hui.
Tout à fait. Et notre mission du jour, disons-le, elle est ambitieuse. Il s'agit de déconstruire un mythe tenace, celui qui voudrait que le conflit soit une simple anomalie.
Un dysfonctionnement toxique qu'il faudrait éradiquer à tout prix, en fait.
Voilà. Au contraire, l'objectif de cette plongée au cœur de nos sources est de comprendre comment transformer ces différends, qui sont inévitables, en de véritables leviers de performance.
Et d'innovation, oui.
Pour poser les bases correctement, rappelons la définition factuelle. Un conflit, c'est une situation d'opposition résultant d'une divergence d'intérêts, de valeurs ou d'objectifs entre plusieurs parties. Que cette divergence soit bien réelle ou simplement perçue.
La perception joue un rôle immense.
Et quand on se penche sur la réalité chiffrée issue de notre dossier, le constat est frappant. 69% des salariés français déclarent vivre ponctuellement des conflits au travail.
C'est quasiment 7 personnes sur 10.
C'est énorme. Le temps moyen consacré à gérer ces tensions, c'est 3,1 heures par semaine. À l'échelle d'une année, on parle de l'équivalent de 20 jours ouvrables perdus par personne.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'effet iceberg de ces chiffres. L'organisation consomme une énergie considérable, presque invisible au quotidien, pour réguler son propre système, au lieu de produire de la valeur tangible.
Et si on regarde la partie émergée de cet iceberg ?
Les coûts directs sont vertigineux. On parle des procédures juridiques, du coût du turnover, des congés maladie liés à l'épuisement. Le coût salarial global est estimé à 152 milliards d'euros par an, rien que pour la France.
C'est colossal.
Oui, mais la véritable érosion de la valeur, celle qui menace la survie d'une entreprise, se trouve sous la surface. C'est la baisse insidieuse de la qualité, l'atrophie de l'innovation et surtout, la dégradation de la confiance.
Un conflit larvé fragmente les collectifs de manière invisible. D'accord, décortiquons cela, car il y a une face cachée beaucoup plus lumineuse. Nos sources mentionnent les travaux de Mary Parker Follett.
Une pionnière du management humaniste ?
Absolument. Dès les années 1920, elle avançait une idée très moderne. Un conflit, lorsqu'il est traité par ce qu'elle appelle l'intégration, engendre des solutions créatives supérieures aux positions de départ.
C'est l'axe central de la réflexion moderne. Le conflit n'est ni bon ni mauvais. C'est l'ingénierie mise en place pour le gérer qui compte. Et cette approche est brillamment complétée par Chris Argyris.
Avec son concept d'apprentissage en double boucle. C'est bien cela ?
C'est ça. Gérer un conflit ne devrait pas consister uniquement à corriger une erreur ponctuelle pour reprendre le travail. Ça, c'est la simple boucle.
D'accord.
L'opportunité monumentale d'un conflit, c'est de questionner les règles elles-mêmes. Un conflit constructif force l'organisation à regarder ses angles morts et évite la pensée unique.
En gros, ça sert à se réunir autour de la table pour se demander pourquoi on jouait avec des allumettes au départ et s'il ne faudrait pas revoir les règles de sécurité.
Parfaitement résumé. C'est un vrai catalyseur d'innovation.
Mais pour transformer ces tensions, encore faut-il savoir à quoi on a affaire. Tous les conflits ne se ressemblent pas. Comment diagnostiquer le type de conflit en cours ?
Le diagnostic est la toute première compétence requise. Les sources mettent en évidence trois grandes catégories. Premièrement, le conflit d'intérêts.
La compétition pour des ressources limitées.
Voilà, le budget, le temps, le matériel. Paradoxalement, c'est le plus simple à négocier, car c'est quantifiable. On peut couper la poire en deux.
Et la deuxième catégorie.
Le conflit de valeurs. Là, la complexité grimpe en flèche. On touche aux croyances profondes, à l'éthique. C'est très difficile à résoudre, car demander de transiger sur ses valeurs, c'est attaquer l'identité de la personne.
Et enfin, le conflit de pouvoir. Sur ce point précis, les travaux d'Henri Mintzberg semblent incontournables dans nos sources. De quoi s'agit-il dans la dynamique d'une organisation ?
Pour Mintzberg, le conflit de pouvoir porte sur la répartition de l'autorité et le contrôle des zones d'incertitude. Ce n'est pas forcément une question d'ego, c'est un enjeu purement structurel.
Chaque département cherche à maximiser son influence.
C'est naturel. Et outre la nature du conflit, il faut analyser son niveau. Le chercheur Bruce Tuckman a modélisé la vie des équipes et démontré que la phase de storming, la turbulence, est un passage obligé.
C'est la dynamique classique du lancement de projet. Tout le monde est très poli la première semaine et on finit par s'écharper au bout d'un mois pour savoir qui valide telle dépense.
C'est une phase totalement saine et nécessaire. Une équipe sans turbulence reste superficielle.
Les tensions définissent les rôles. Pour structurer notre analyse, nos documents cartographient aussi les sources des conflits en trois blocs. Les facteurs structurels, d'abord.
Les fiches de poste floues, les doubles hiérarchies matricielles.
Exactement. Ensuite, les facteurs relationnels, liés aux personnalités. Et enfin, l'incertitude, générée par les réorganisations ou la digitalisation, qui crée de l'anxiété.
Et concernant les facteurs relationnels, les modèles psychologiques comme le MBTI sont très utiles.
Comment ça?
Eh bien, si un collaborateur a besoin de canning strict et qu'un autre a besoin d'improvisation pour être créatif, le conflit n'est pas lié à de la mauvaise volonté. C'est un câblage cognitif différent.
Et nos sources citent aussi le sociologue Geert Hofstede sur les dimensions culturelles.
Oui, contredire son manager est impensable dans certaines cultures, alors que c'est une preuve d'engagement dans d'autres. Sans ce décodeur, c'est le malentendu assuré.
Le conflit est vraiment encodé dans l'ADN du travail en équipe.
Si l'on relie cela à la vision globale de la théorie des organisations, le glissement est spectaculaire. Sous l'ère du taylorisme, le conflit était une maladie.
Une défaillance du management.
C'est ça. Puis, en 1958, March et Simon ont introduit la rationalité limitée. Ils expliquent que le conflit est prévisible, car personne n'a une information complète. Nos perceptions sont divergentes par nature.
Le désaccord est donc inévitable et utile, ce qui nous amène à la question de l'anticipation, le paradigme de la prévention en 6 actes. Et il y a une nuance cruciale.
Laquelle ?
Prévenir ne signifie pas supprimer le désaccord ou imposer un consensus mou. Prévenir, c'est structurer la régulation. L'acte 1, c'est identifier les sources, faire une cartographie des surcharges.
Et l'acte 2, c'est la clarification organisationnelle. Il faut sécuriser le périmètre de chacun et surtout instaurer un alignement décisionnel incontestable.
Savoir qui a le dernier mot.
Oui, un arbitrage transparent limite considérablement les jeux politiques.
C'est ici que cela devient vraiment intéressant avec l'acte 3, la formation aux soft skills. Beaucoup d'entreprises voient ça comme une dépense secondaire.
À tort.
Prenons un exemple. Un talent démissionne à cause d'une ambiance toxique. Le coût du recrutement, la perte d'expertise, ça dépasse souvent un salaire annuel. Face à ça, le coût d'une formation à la gestion des émotions est dérisoire.
L'équation économique est implacable. Et cela soutient l'acte 4, installer une culture du dialogue. Le silence organisationnel est bien plus dangereux que le désaccord verbalisé.
Un non-dit s'enquiste et pourrit le climat.
Voilà. Il faut des rituels de feedback, des espaces où on critique les idées avec rigueur, tout en respectant les personnes.
Et pour institutionnaliser cela, les actes 5 et 6 intègrent cette approche à la gouvernance. Faire de la qualité relationnelle un indicateur de performance avec des baromètres sociaux réguliers.
Mais il faut rester lucide. Malgré la meilleure prévention, l'étincelle finit toujours par se produire.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond quand la crise est déclarée? C'est le cœur de l'action avec 10 principes clés répartis en 3 phases, l'amont, le pendant et l'aval.
L'amont demande du courage. Le principe numéro 1, c'est de ne pas faire l'autruche. Nier le conflit garantit son aggravation.
Le nommer calmement, c'est déjà agir.
Ensuite, le principe 2 demande une rigueur d'ingénieur, analyser les causes profondes.
Quand on parle d'analyse, nos sources font référence à la méthode Ishikawa, n'est-ce pas? Le fameux diagramme en arête de poisson.
Exactement, ou la méthode des 5 pourquoi. On remonte à la cause racine pour séparer les faits incontestables des émotions et des interprétations subjectives.
Ce qui ouvre la voie au pendant, la gestion active, le principe 3 est fondamental, séparer les personnes du problème. Être impitoyable avec le problème, mais bienveillant avec les individus.
C'est un pilier de la négociation. Et ça demande 2 compétences cruciales, les principes 4 et 5. D'abord, une écoute vraiment empathique, reformulée pour s'assurer qu'on a bien compris.
Se sentir compris fait souvent chuter la tension.
Absolument. Et ensuite, maîtriser ses propres émotions. Le stress réduit notre capacité d'analyse. Un manager calme sécurise l'espace de dialogue.
On entre alors dans la résolution. Le principe 6, viser le gagnant-gagnant. Passer des revendications de surface aux véritables besoins profonds.
Les intérêts sous-jacents.
Pour y parvenir, le principe 7 propose la méthode DESC. DESC. C'est un outil de communication assertif très puissant.
C'est une véritable grammaire de la résolution. Décrire les faits, exprimer l'impact, spécifier une attente et conclure positivement.
Imaginons un retard récurrent sur un projet. Au lieu de dire « tu ralentis tout le monde », on utilise le DESC.
Oui, on dira plutôt « quand le livrable n'est pas transmis à temps, je suis en difficulté. Je te demande de m'alerter 48 heures à l'avance, ce qui nous permettra de réorganiser le planning sereinement. »
C'est chirurgical. Et si ça bloque, le principe 8 préconise l'intervention d'un tiers neutre, un médiateur.
Mais le travail ne s'arrête pas là. On arrive à la phase d'aval. Le principe 9 exige de formaliser l'accord par écrit et de programmer un suivi à 30 jours.
Sans ce suivi, les anciennes habitudes reprennent le dessus et le conflit se réenflamme.
Avec encore plus d'amertume. Enfin, le principe 10 boucle le tout. Capitaliser sur l'expérience, on revient à l'apprentissage en double boucle. Ce conflit révèle-t-il une procédure défaillante ?
En tirant ces leçons, l'entreprise se renforce en continu. En synthèse de cette analyse, l'idée est limpide. La gestion des conflits n'est pas une simple boîte à outils d'urgence. C'est une compétence systémique qui allie intelligence émotionnelle et rigueur analytique.
Cela soulève une question essentielle quand on observe la dynamique des collectifs. Si un conflit bien géré purge les non-dits et révèle les angles morts d'un système, une harmonie de façade ne cache-t-elle pas le pire des dangers ?
C'est une excellente réflexion.
Le silence absolu et l'absence de désaccord ne seraient-ils pas le symptôme le plus alarmant du déclin d'une organisation ou d'une peur paralysante de l'innovation ?
C'est une perspective parfaite pour clôturer notre dossier. Il est primordial de rappeler à notre public la grande richesse des ressources, schémas et modèles d'analyse consultables en détail sur le site lesclésdumanagement.com.
Un portail vraiment indispensable.
Nous invitons d'ailleurs notre public professionnel à s'abonner aux différents podcasts associés. C'est la garantie d'être tenu informé de toute nouvelle publication audio pour affiner ses pratiques managériales. Merci de votre écoute attentive et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources.